Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
3 heures d'info en direct, c'est parti.
Europe 1, il est 6 heures.
Je ne pense pas que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires. L'enjeu, c'est de combattre efficacement les dérives communautaires.
Édouard Philippe siffle ainsi la fin du match autour du port du voile. Beaucoup de voix discordantes ces derniers jours au sein de la majorité.
Des bénéficiaires du Secours populaire de plus en plus racistes sur le thème. Ils ont plus que nous. Terrible constat dans les Côtes d'Armor, dressé par François Coulon.
Coup de frein sur la croissance mondiale, le Fonds monétaire international revoit ses prévisions à la baisse.
Il y a la menace de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il y a le Brexit, il y a l'Allemagne qui est au bord de la récession.
Une croissance mondiale qui devrait atteindre les 3% cette année.
À qui profite le budget 2020 ? Aux classes moyennes. On y revient avec l'invité du 6h, Antoine Bozio, qui dirige l'Institut des politiques publiques.
Et puis tout, vous serez tous sur Marie-Antoinette, star international, et cela grâce à l'expo qui s'ouvre aujourd'hui à la Conciergerie à Paris.
Marie-Antoinette est devenue une sorte d'icône de mode, de fashionista de la haute couture, une figure pop iconique de niveau mondial.
Et mon invité inattendu dans 20 minutes a recréé le parfum de Marie-Antoinette précisément. Il est 6h01, bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zelani.
Le voile, c'est donc décidément le sujet qui fâche. Sujet relancé par l'incident au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Un élu RN avait demandé l'exclusion d'une mère voilée qui accompagnait un groupe d'enfants.
Julien Oudoul, que nous avons d'ailleurs reçu sur Europe 1, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'oppose au port du voile lors des sorties scolaires. Mais d'autres voix contradictoires s'élèvent chez les marcheurs, y compris au sein du gouvernement. Bref, c'est la cacophonie.
Et hier, Édouard Philippe a voulu mettre un terme à cet étalage de division à l'Assemblée. Aurélie Herbemont.
Je ne pense pas, pour ma part, monsieur le député, que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires.
48 heures de cacophonie en Macronie. LR qui réclame l'interdiction pour les mamans voilées d'accompagner les sorties scolaires. Édouard Philippe est obligé d'intervenir. Il ne compte pas changer la loi. Mais l'épisode montre à nouveau les tiraillements des marcheurs sur les questions de laïcité. Le député de l'aile gauche, Jean-François Cesarini, estime que c'est au président de donner enfin un cap.
Le président Macron voulait toucher à la loi de 1905. Puis, nous, on a fait beaucoup pression ici. Il a dit « je n'y toucherai pas ». Donc, on voit que les choses ne sont pas si claires. Clairement, il faut qu'aujourd'hui, le président explique. Qu'est-ce que c'est que sa conception de la laïcité ? Quelle est la ligne, quoi ?
Pas question de mettre la pression sur le chef de l'État. Pour Gilles Legendre, il s'exprimera quand il le souhaitera et de préférence pas pour répondre à la polémique du moment.
Parce que n'oublions pas que la polémique est née d'une instrumentalisation grossière de la part d'un élu du Rassemblement national. Ça, c'est le pire moyen de traiter correctement ce sujet.
L'Élysée affirme qu'il y aura bien un discours du président sur la laïcité, mais n'est toujours pas capable de dire quand.
Aurélie Herbemont. Et puis à Creil, dans l'Oise, une sortie scolaire à la caserne a été annulée parce que les pompiers refusaient l'entrée de deux accompagnatrices portant le voile. Finalement, l'officier qui a pris la décision a présenté ses excuses. On va y revenir à 7h.
Et n'hésitez pas encore une fois à arbitrer ce débat au cœur de la majorité. Là, c'est la parole du Premier ministre qu'on vous a donné à écouter. 39-21, le hashtag Europe 1. Vous serez en direct avec nous. Autre sujet archi-sensible et pourtant c'est une réalité. Le Secours populaire constate de plus en plus de haine et de racisme entre ses bénéficiaires.
Ah oui, dans le département des Côtes d'Armor, en un an, l'association a accueilli 16% de personnes supplémentaires et les tensions se multiplient entre les communautés. Écoutez le reportage de François Coulon.
C'est une constante. Environ un tiers des bénéficiaires du Secours populaire de Saint-Brieuc sont d'origine étrangère. La nouveauté, ce sont les questions posées aux bénévoles. Tu lui donnes plus parce qu'il est arabe, Greg, demandeur d'emploi.
Je trouve qu'ils en profitent un peu. Ils repartent les bras pire que chargés, avec 6 sacs plein à bord. Ils sont étrangers et puis voilà, je suis un peu dégoûté. Moi, quand je passe, on n'a pas grand-chose. Pas logique.
Mireille, au chômage depuis 2 ans.
Moi, j'accepte pas que les Noirs, les Arabes, servis en premier, sont mieux servis que nous. C'est un peu désespérant.
C'est pas du racisme, ça ?
On devient raciste quand on voit ça.
Juan Pomares, responsable du Secours populaire des Côtes d'Armor, est effrayé par cette poussée xénophobe.
On a beau leur expliquer, ils ont 5 gosses ou 7 gosses, donc ils ont un quota plus grand. Mais pour eux, on donne plus à l'étranger qu'aux Français. Cette haine, dans notre région, c'est quelque chose de nouveau. Ça nous inquiète. Moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est pas nos valeurs de dire « il y a trop à faire chez nous, qu'est-ce qu'on s'embête avec les autres ?»
Une question sensible que n'hésitent pourtant pas à poser les dirigeants de certains comités locaux. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe 1.
Il est 6h05, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Avec la multiplication des conflits, le Fonds monétaire international lance un avertissement. Le FMI revoit très fortement à la baisse ses prévisions de croissance mondiale.
Oui, 3% au lieu de 3,8%, c'est la plus basse depuis la crise de 2012. Pourquoi la réponse du vice-président du Cercle des économistes, Christian de Boissieu ?
Il y a la menace de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il y a la menace de guerre d'échange. Il y a le Brexit. Il y a l'Allemagne qui est au bord de la récession. Voilà, il y a tout un ensemble de facteurs d'incertitude et de risques qui pèsent sur la confiance et donc qui pèsent sur l'investissement, la croissance et l'emploi. Je pense que le FMI est encore trop optimiste. On s'en sort pas trop mal, moins mal que l'Allemagne parce que nous sommes moins dépendants de ce qui se passe dans le reste du monde, mais pas de cocorico, croissance de 1,2-1,3, c'est pas la récession, mais c'est pas génial.
C'est pas génial. Le vice-président du Cercle des économistes, joint par Carole Ferry pour Europe.
En France, on peut dire désormais que les classes moyennes sont les grandes gagnantes des réformes gouvernementales.
L'Institut des politiques publiques vient en tout cas de publier une enquête très fouillée sur les mesures fiscales du projet de budget 2020. Résultat, si Emmanuel Macron garde pour beaucoup l'étiquette de président des riches, en réalité, ce sont bien les classes moyennes qui gagnent le plus en pouvoir d'achat.
Bonjour Antoine Bozio.
Bonjour.
Vous dirigez l'Institut des politiques publiques, institut indépendant, précisons-le, et merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Il est de quel ordre ce gain de pouvoir d'achat pour les classes moyennes ?
Alors si on fait le cumulé en fait de l'ensemble des mesures depuis le début du quinquennat, les classes moyennes ont gagné environ 3% de revenus disponibles, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat net pour une sorte de large classe moyenne. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gains, ils ont été en grande partie dus aux mesures qui ont été prises après la crise des Gilets jaunes, à la fois avec les mesures d'urgence économique et sociale, et puis dans le dernier budget, avec les dernières mesures de baisse de l'impôt sur le revenu et de la baisse de la dernière baisse de la taxe d'habitation.
On a beaucoup parlé des retraites ces derniers temps. Quels sont les gagnants et les perdants chez les retraités ?
Alors, chez les retraités, en fait, il y a eu une sous-indexation des retraites cette année dans le budget 2020, mais pour les retraites qui sont au-delà de 2000 euros par mois. Donc, ça touche plutôt des retraités qui sont dans la partie aisée de la distribution. Mais comme ils bénéficient tous aussi de la baisse d'impôt sur le revenu, en réalité, au total, ils ne sont pas perdants tels qu'ils avaient pu l'être dans les premières versions, dans les premiers budgets du quinquennat.
Merci Antoine Bozio, président de l'Institut des politiques publiques, d'avoir été l'invité du journal de 6h en direct sur Europe 1.
Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, ce chiffre terrible, 121 féminicides depuis le début de l'année. Reportage avec des colleuses d'affiches qui tentent d'alerter l'opinion publique. Le journal de 6h continue dans un instant.
Il est 6h08. Europe 1, il est 6h10, la suite du journal avec Hélène Zélani et Mathieu Béliard.
Macron, il faut te réveiller. C'est derrière ce slogan que des militantes du collectif Nous Toutes se sont rassemblées hier soir près de l'Élysée.
Oui, elles dénonçaient l'accélération des féminicides, 121 depuis le début de l'année. Et pour tenter d'alerter l'opinion, des affiches que vous avez d'ailleurs peut-être pu voir dans votre ville sont collées chaque nuit. Victor Delande a suivi plusieurs activistes hier soir.
En 10 mois, 121 femmes tuées. C'est autant que toute l'année 2018. Macron, tu agis quand ?
Dans un local étudiant, Garance écrit ce message à la peinture noire sur des feuilles blanches. Elle a rejoint le mouvement le mois dernier, un combat comme une thérapie.
J'ai subi des violences déjà, j'ai que 20 ans et j'en ai déjà subi à plusieurs reprises, des viols en l'occurrence. Quand je peins, j'ai l'impression que ça me libère aussi d'un poids, ça me libère d'une parole qui m'a été refusée peut-être quand j'étais plus jeune. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Oui.
Les slogans terminés, 4 autres activistes prennent le relais et arpentent les rues de Paris, collent à la main, Meredith donne les dernières consignes.
On va nous voir, on va peut-être nous interpeller, mais vous ne répondez pas, les laissez faire quoi.
Une heure plus tard, elles ont pu afficher 3 messages sur des murs vierges. Émue, Meredith lance un appel à l'aide.
C'est une horreur en fait. T'as rarement l'habitude de compter jusqu'à 121 dans ta vie. Et là, tu colles qu'il y a 121 femmes tuées, c'est plus possible. C'est un peu un appel de détresse quoi. Quand est-ce que tu agis ? Là, on parle à Macron. Mais c'est toi, ça doit toucher chacun de nous.
Elles sont déjà plus de 400 à Paris à coller des affiches tous les soirs et chaque jour, une vingtaine de femmes les contactent pour rejoindre le mouvement.
Victor Dolande. Le projet de loi bioéthique adopté hier à l'Assemblée avec notamment la mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Projet qui doit arriver au Sénat en janvier.
Un accord reste possible sur le Brexit. C'est en tout cas ce que disait hier soir le négociateur de l'Union, Michel Barnier. Mais il va falloir faire vite puisque le sommet européen s'ouvre demain.
Direction l'Écosse où les habitants sont de plus en plus nombreux à vouloir l'indépendance. En substance, leur pays s'en sortirait mieux seul qu'avec le Royaume-Uni en cas de Brexit. À Édimbourg, Johanna Chabas.
Dans les rues d'Édimbourg, personne n'a envie d'en parler de ce Brexit. Les Écossais en ont assez et se disent attristés par cette situation qui leur échappe. Comme Jen et Harry, ils avaient voté pour rester dans le Royaume-Uni. Aujourd'hui, surtout pas.
La première fois qu'on a voté, on nous avait promis que si on restait dans le Royaume-Uni, on resterait dans l'Union européenne. Et maintenant que c'est plus le cas, beaucoup se sentent trahis.
En 5 ans, il s'est passé tellement de choses. Le Brexit déjà. Boris Johnson est devenu Premier ministre sans qu'on vote pour lui. L'Écosse n'a jamais voulu d'un gouvernement conservateur. Ça montre juste à quel point on est différent.
L'idée d'un deuxième référendum fait son chemin et ce n'est plus un fantasme. La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, le revendique devant les médias britanniques.
L'Écosse se portera mieux si elle est indépendante et en charge de son futur. Je suis en train de faire adopter les lois par le Parlement écossais pour encadrer le vote. C'est pour très bientôt.
Bientôt, une question de quelques semaines, assure la Première ministre. Édimbourg, Johanna Chabas, Europe 1.
Marie-Antoinette continue à fasciner les foules aujourd'hui encore. C'est ce que montre l'exposition qui s'ouvre aujourd'hui à la Conciergerie à Paris, là où elle a vécu ses dernières semaines avant l'échafaud.
200 reliques, documents d'archives, portraits ou extraits de films sont présentés. Diane Chenouda, on y découvre comment Marie-Antoinette est devenue une icône planétaire.
Reine dépensière et détestée par son peuple qui termine décapitée sur l'échafaud, Marie-Antoinette va ensuite être adulée comme une sainte au 19e par les royalistes. Jusqu'à devenir, depuis une vingtaine d'années, une véritable icône pop, comme l'explique l'historien Antoine de Bac.
C'est une jeune femme moderne qui s'émancipe à travers son rapport à ses amours, à la nature, à ses enfants. C'est véritablement cette nouvelle princesse. Je dirais un petit peu sur le modèle de la princesse de Galles, de Lady Di, qu'on a construit une nouvelle image de Marie-Antoinette, notamment la bande dessinée, le cinéma, la mode. Marie-Antoinette est devenue une sorte d'icône de mode, de fashionista, de la haute couture. C'est véritablement une figure pop iconique de niveau mondial.
Elle est allée dans les buissons à l'aube, avec plusieurs hommes.
Le célèbre film de Sofia Coppola en 2006 a beaucoup contribué à cette nouvelle image pop de Marie-Antoinette. Les mangas aussi en ont fait une héroïne à laquelle les jeunes femmes peuvent s'identifier. Sans oublier bien sûr Kate Moss ou Madonna qui ont défilé en Marie-Antoinette.
Diane Chenouda, Marie-Antoinette, métamorphose d'une image, c'est à la Conciergerie à Paris dès aujourd'hui et jusqu'en janvier prochain.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal, un nouveau journal à 6h30.
Europe 1.